Laurence Aloua. Tegi Nfatrore. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans les sessions live, oui les sessions live parce qu'il y en a deux aujourd'hui. Le contrebassiste Camélien présentera son premier album solo Fantôme Futur dans la seconde partie de cette émission. Et nous recevons tout de suite la soprano Amel Brahim-Djelloul, plutôt habituée à chanter de l'opéra et de la musique baroque, et qui sort un album hommage à la chanson kabyle, Les Berbères d'Algérie, pays où elle est née. Amel est en place avec ses musiciens, Daman Kalfa à la derbouka, Rachid Brahim-Djelloul au violon, Misha Fitzgerald-Michel à la guitare. Bonsoir. Giro reali Fela 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 Fem can fekori Amel Brahim-Djelloul sur RFI dans la session live.
La session live. Musique du monde sur RFI, Radio France Internationale.
Amel Brahim-Djelloul au chant, Misha Fitzgerald-Michel à la guitare, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Daman Kalfa à la petite derbouka. Amel Brahim-Djelloul, on vous découvre avec cet album les chemins qui montent dans un répertoire qui n'est pas le vôtre en général. Alors avant de nous raconter la belle histoire de ces chemins qui montent, je rappelle quand même que vous êtes né dans les années 70, je ne donnerai pas la date exacte, à Alger. Mais non, mais on protège les gens ici. On donne les noms, tous les noms, mais pas les dates de naissance. Vous êtes par la suite venu en France pour compléter votre l'enseignement de la musique. Vous aviez commencé par le violon, puis finalement le chant c'était plus sympathique. Le violon c'est votre grand frère qui l'a gardé. Vous avez suivi donc des études à l'École nationale de musique à Montreuil, qui est donc en région parisienne. Et puis après, vous avez été une élève au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Grosse institution, ça fait peur ou pas, quand on rentre au grand conservatoire?
Oui, ça fait peur pendant au moins 3 mois. Oui.
Juste 3 mois?
Oui, on a un peu une petite boule dans le ventre, se dire, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ouais, je mérite d'être là? J'en sais rien.
Alors, qu'est-ce que vous étudiez? Vous êtes plutôt un répertoire, quand je regarde votre biographie, c'est plutôt les musiques, la musique baroque, donc 17e, 18e.
Pas que.
Pas que. Oui, je sais, il y a du Messager aussi qui est plus récent, mais en gros.
Mozart.
C'est Mozart. Mozart, c'est juste à la fin.
Oui, mais c'est comme pas baroque.
Non, il n'est pas baroque.
Non, c'est pas baroque.
Vous n'avez jamais joué dans l'enlèvement au sérail de Mozart?
Non.
Vous auriez été très bien en Constance.
C'est pas pour moi.
C'est pas pour vous? Pourquoi?
Non, c'est pas pour moi. C'est quand même un peu plus lyrique. Moi, je suis un lyrique léger, donc je suis plutôt soubrette, mais Bluntian aussi, c'est pas pour moi dans cet opéra.
Vous avez été sur la scène de grands théâtres en France et à l'étranger, et notamment au Châtelet en 2008. Vous avez joué le rôle d'Hélène dans l'opéra comique d'André Messager Véronique, et c'était une mise en scène de Fanny Ardant. Des souvenirs émus de cette période, sur la balançoire, par exemple?
Ah oui, mais j'ai réalisé tous mes rêves de princesse.
Hein? Parce que vous êtes une princesse.
N'est-ce pas? Non, princesse paillette.
Oui.
Non, mais sérieusement.
Fanny Ardant.
Fanny Ardant, je crois que c'était sa première mise en scène. Je ne sais pas si elle en a fait d'autres après. Mais c'était classe. C'était la comédienne qui incarnait ce qu'elle voulait et qui transmettait ça magnifiquement. En tout cas, moi, je me suis sentie valorisée, portée dans ma féminité et nourrie pour ce personnage.
Mais c'est-à-dire que vous travaillez avec une comédienne comme Fanny Ardant, qu'est-ce que ça apporte à une chanteuse lyrique comme vous?
C'est une super directrice d'acteur, en fait, ouais. Tout simplement. Et quand on fait de l'opéra, on fait du théâtre aussi. On n'est pas toujours nourri de cette façon. Et je trouvais qu'elle était particulièrement douée pour apporter tout le sous-texte pour nourrir un personnage et le rendre crédible.
Dans ce nouveau projet qui s'appelle Les chemins qui montent, d'ailleurs qui rappelle le nom d'un roman avec une histoire d'amour très triste, vous inspirez de certains grands poètes ou chanteurs kabyles. Vous n'êtes pas kabyle?
Je ne suis pas d'origine kabyle.
C'est pas grave?
Non, c'est pas un problème.
Il n'y a pas de problème.
Je suis algérienne.
Oui, bon, alors voilà.
La Kabylie est en Algérie.
Absolutely. Donc, il y a une certaine Marie-Louise Taos-Amrouche qui vous a servi un petit peu, comme il dit, de base pour cet envol discographique. Vous voulez nous parler d'elle?
En fait, ce qui était intéressant dans la démarche vers Taos-Amrouche, c'est tout le travail qu'elle a fait, elle, en tant que kabyle, qui a écouté sa maman, qui a recueilli les chants traditionnels que chantait la maman, qui en a fait une anthologie magnifique, de laquelle je me suis inspirée parce que je trouvais que c'était intéressant de mettre un peu d'ancien pour raconter quelque chose qui vient de beaucoup plus loin que des chansons modernes.
Ça, c'est un enregistrement lors d'une interview télé. Je pense qu'ils ont planté le micro un peu, je ne sais pas trop où, dans l'appartement. Oui. Donc, c'est une envolée de sa part. Vous savez qu'elle avait participé au Festival des Arts Nègres de Dakar en 66. Et quand elle a voulu jouer au Festival culturel panafricain d'Alger en 69, on lui a dit non. Il y est allé quand même.
Ah oui, elle y est allée.
Oui,
comme...
oui,
ça,
oui.
C'est une pionnière.
C'est une pionnière.
Je pense que c'était une écorchée vive. Enfin, en tout cas,
grande personnalité.
De ses écrits, on le sent beaucoup. Et puis, je crois qu'elle était fascinée par la musique classique, par tous les artistes type Messiaen. Et c'est ce qui fait qu'elle a quand même coloré. Parce qu'à mon avis, sa maman ne chantait pas comme ça, les chants traditionnels. Et je pense que c'est un peu le fantasme qu'elle avait du chant lyrique qui a fait qu'elle a créé cette espèce de mixte. Voilà, sans forcément avoir travaillé sa voix lyriquement, c'est détonnant.
Sur cet album, Les chemins qui montent, il y a des compositions originales, mais il y a aussi des reprises. Il y a au moins 3 titres signés par un certain Hamid Chrayet. Je pense qu'il s'agit d'Idir. Idir, vous l'avez rencontré une fois. J'ai vu un enregistrement sur Télévision Berbère.
Berbère TV. Oui.
Oui, c'était en 2014, je crois. Ouais. Extrait.
Okay.
Mais dites-moi, on est en plein baroque, superposition de lignes mélodiques, oui. Vos deux voix. C'est très beau, c'est la seule fois où vous avez pu chanter ensemble.
En fait, j'étais invitée à l'émission sur Berber TV et on m'a fait la surprise parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils viennent. Il s'était pointé avec sa petite veste sur son avant-bras. Je me souviens très bien, il était discret sur une chaise. Il m'écoutait parler. Et ensuite, on a fait une petite pause et on nous avait présenté. Alors moi, j'étais émue comme une gosse parce que j'ai écouté toute ma vie. J'avais écouté ce chanteur, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et puis lui, il était aussi très impressionné parce qu'il était ému qu'une chanteuse lyrique reprenne ses chansons. Donc je lui dis, mais vous, avec votre voix, c'est moi, ma voix et tout. Mais moi, je lui dis, mais en face, on se croise et on fait des chemins l'un vers l'autre. Et c'était hyper chouette. Et ça a été improvisé, le fait qu'on chante ensemble à la fin de l'émission. Donc, grand souvenir et beaucoup d'émotions.
Donc, Les Chemins qui montent, là, cet album qui sort, vous le portez en vous depuis très longtemps?
Oui, depuis très, très longtemps. J'avais un petit peu peur. J'avais un tas de peurs que j'avais dans le ventre, comme ça, et qui ont pris fin pendant le premier confinement. Et puis, l'annonce de la mort d'Idir a été...
En 2020.
Ouais. Oui. Ça a été le déclencheur. J'avais très envie de consacrer tout un programme aux chansons kabyles, même si je ne parle pas cette langue. Il y a quelque chose qui m'émeut très profondément. Et je crois que c'est toute cette culture. C'est un peu dur. En même temps, il y a une dureté, il y a une force, il y a une simplicité. Il y a un tas de choses qui font que... Voilà, je me suis dit, allez, c'est parti.
Je vous sens très émue.
Oui.
Je vous propose d'écouter un extrait du titre. Alors, je ne sais pas bien le prononcer.
Wivran.
Wivran, merci.
Celui qui veut.
Un mini extrait de la version Idir, et puis après, on écoutera la vôtre. Idir est maintenant la version de Amel Brahim Djelloul.
Oh.
Amel Brahim Djelloul, avec le titre « Celui qui veut », une reprise d'un titre d'Idi. Dites-moi, les arrangements sont somptueux. Thomas Keck,
n'est-ce pas ?
Guitariste.
Quel brillantissime, oui. Guitariste.
Je ne vous vois pas entouré de gens moyens, de toute manière. Avec la voix que vous avez, vous pouvez vous permettre.
Oui. Bah, écoutez, je l'ai rencontré lors d'un projet autour de la musique espagnole, répertoire espagnol. Et c'était déjà lui qui avait fait des arrangements pour un quatuor à cordes pincées. Et j'avais retenu un peu, j'avais un bon souvenir de notre travail ensemble. Et quelques années après, j'ai eu l'occasion de faire un récital à l'Opéra de Genève et je l'ai invité pour m'accompagner. On a fait un petit peu de musique espagnole et on a fait aussi des chants kabyles, parce qu'on nous avait quand même demandé des chants kabyles, mais on n'avait pas encore élargi à ce point-là le panel. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit, je pense que c'est avec lui. Il était très intéressé et très curieux d'aller vers ce répertoire.
Pour rentrer dans votre univers, il faut avoir de très, très grandes oreilles, être à l'aise dans le classique, dans le baroque, dans le contemporain, dans le jazz, dans les musiques traditionnelles. C'est un peu ce que réunit tout ce garçon, non ?
Oui, une grande culture, de vraies compétences d'écriture et... Mais oui, un vrai intérêt pour... je crois que, comme beaucoup de guitaristes, ils n'ont pas qu'un seul univers, en fait. Il est plus jeune que moi, donc on ne s'est pas croisé au conservatoire. Mais il a fait aussi le CNSM, il a fait aussi les classes d'écriture. Je crois qu'en plus de son bagage de classique, il a toujours eu la chanson comme répertoire également, qui le nourrissait. Voilà, donc comme... tout guitariste de grande culture et c'est ça qui était intéressant parce que sinon la démarche aurait été trop difficile et beaucoup trop lointaine parce que quand même il a mis en musique des chansons dans une langue qu'il ne parle pas et qui était très lointaine pour lui.
Le titre de votre album, Les chemins qui montent, ça fait référence à un roman, celui de Mouloud Feraoun. Le roman commence par un amour désespéré, désespérant. L'aimé vient de se suicider. Et donc elle reste un peu comme une imbécile. Je ne pense pas que ce soit cette idée-là que vous avez voulu mettre en exergue. Les chemins qui montent, pour vous, c'est peut-être une rencontre Occident-Orient. Ou alors vous êtes passionné par la passion roman.
Oui, effectivement. Alors le roman... ce que je trouve, c'est une histoire d'amour. Effectivement, ce n'est pas forcément une histoire d'amour joyeuse. Moi, je suis tombée amoureuse, par contre, de Mouloud Feraoun.
Il est au courant ?
Ben non, malheureusement, parce qu'il est parti... Encore un qui est parti très, très jeune. Genre, également, comme Idir, c'en est un que j'aurais vraiment beaucoup voulu rencontrer. Les chemins qui montent, c'est vraiment l'emprunt à ce titre, surtout. Parce que évoquer la montagne, évoquer la Kabylie, c'est évoquer la montagne, les chemins qui sont pas forcément évidents, voilà, et aussi le cheminement. La montagne, c'est immense, c'est très enraciné avec un sommet, et donc il y a forcément des efforts à faire pour cheminer vers le haut, et c'est comme dans un chemin de vie, on n'y arrive pas comme ça d'un claquement de doigts.
Et on entend Djurdjura et on entend Ora Aishi. J'aimerais qu'on parle de vos musiciens. Alors sur l'album, il y a déjà un télescopage très, très intéressant. Non, il y a un peu de viol de gambe, donc ça c'est le monde baroque. Il y a une basse qui serait plutôt jazz, un clarinettiste classique. Alors il y a votre grand frère Rachid Brahi Djelloul, qui est important aussi dans votre vie, qui a fait des études de musicologie. Si je me retourne, on ne va plus m'entendre, je m'en fous.
Bonjour. Ça va ?
Je me demandais, votre grand frère a fait un bouquin. Vous savez, on fait des mémoires quand on fait des études de musicologie et sur quoi porter son travail. Je vous parle à vous parce que votre frère est au fond.
Sur les instruments traditionnels, mais il a également participé à plein de projets de livres, notamment un recueil sur le chabi, la musique traditionnelle populaire d'Algérie, et plein d'autres ouvrages. Mais c'est surtout travailler sur la musique de la Méditerranée à partir de la musique arabo-andalouse. Et puis ensuite, il a rayonné vers le judéo-espagnol et un peu les musiques du bassin méditerranéen. Donc on avait fait un premier projet. Ça a été mon premier saut en dehors du classique. Ça a été avec Rachid et le groupe M Dièse pour ce projet Amel chante la Méditerranée avec le groupe M Dièse d'ailleurs. Le groupe M Dièse a été créé pour ce projet-là. Et donc Rachid en était le directeur artistique. Et puis un nouveau saut dans l'Algérie maintenant, plus précisément focus sur la Kabylie. Et Rachid fait partie du corps des musiciens du disque.
Vous avez aussi Daman Khalfa, donc Alader Bouka, lui aussi, c'est Alger. Plein de collaborations de Safi Boutella, un truc absolument hallucinant.
Incroyable.
Tag Farina, c'est comme si un musicien se faisait appeler Vercingétorix pour les Français. Safi Boutella, Lounès Matoub, de mémoire. Il me dit, oui. Dans Mozart l'Égyptien aussi, Duc de Courson.
Ouais, tout à fait. Waouh.
Oui.
Bravo.
Mais Hugues de Courson est venu dans cette émission dans les années 90. Cette émission a 30 ans, donc je vous ai tous vu passer.
D'accord.
Chez les enfants aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Donc, Daman fait partie aussi de ce projet, j'allais dire, de manière évidente.
Daman, c'est la baraka aussi de ce projet. Il fait partie, comme Rachid, comme Feu Nordine Alien, qui nous a quittés il y a quelques mois et qu'on a écouté son mandol sur Wivran. Il nous a un peu laissé une place un peu vide, mais ils font partie, c'est ce trio incroyable avec lequel j'ai l'habitude de jouer. Enfin, quand on fait de la musique traditionnelle, c'est vraiment les piliers de M. Dièse.
Et aujourd'hui, dans l'émission, nous avons Micha Fitzgerald-Michel, qui est votre guitariste.
Yes.
Quoi ? Il a lâché Ravi Coltrane.
Micha, pareil. Micha. Les heureuses rencontres de la vie. Et dans ce disque, il n'y a que ces heureuses rencontres qui y sont. Micha, malheureusement, je l'ai rencontré après l'enregistrement du disque. Sinon, je pense qu'il aurait peut-être fait partie de la belle brochette de musiciens qui y sont, qui y jouent. Micha, je l'ai rencontré sur un projet jazz, classique jazz. Et puis, comme Thomas n'est pas toujours disponible pour faire toutes les dates, j'ai proposé à Micha, si vous voulez bien venir intégrer le groupe.
Il est multiprise aussi, ce garçon.
Et il a eu beaucoup de réserves parce que, comme tout perfectionniste, il a dit « Ah ben, je vais essayer, je vais voir, c'est pas que j'ai pas envie, mais quand même, je préfère m'assurer que je suis capable de le faire. » Moi, j'avais aucun doute, mais il fallait que lui s'en assure. C'est tout à son honneur et je suis ravie qu'il soit avec nous dans l'aventure parce qu'il fait des concerts avec nous et c'est une autre couleur, c'est une autre personnalité. Et ce programme, c'est que des solistes, que des personnalités artistiques qui se réunissent pour aller dans une même direction, servir ce programme.
Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il n'y a pas d'égo.
Eh bien oui, quand même, c'est trié sur le volet parce que pas que par pour la qualité artistique, mais humaine. Bon et bon.
On va terminer cette session live avec un titre que je n'oserais même pas prononcer. Je vais vous laisser le dire.
Aham Nougedlil,
la maison de l'humble. Alors, qui a écrit ?
Ça, c'est texte de Rizki Rabia.
Un contemporain, il jeune.
Contemporain, berbérophone. C'est avec lui qu'on a travaillé. C'est lui qui m'a accompagnée dans mon berbère, dans mon kabyle, qui m'a traduit les textes, qui m'a fait travailler phonétiquement. Et puis, il s'est révélé poète, parce que comme tous les poètes, bien souvent assez discret, plutôt en retrait. Et puis, je découvre tout à fait par hasard, en travaillant avec lui, qu'il était poète. J'ai dit, mais t'aurais pas des petites choses à nous proposer, toi ? Timidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait écrit pour le disque, en fait. Parce qu'il manquait des thématiques, des sujets que je voulais évoquer, qu'on n'avait pas dans les reprises. Et bien en fait, il a écrit des textes, il nous les a soumis, on a dit mais c'est ça qu'il nous fallait. Donc la Maison de l'Humble en fait partie.
Et vous pouvez me traduire les premiers mots de la Maison de l'Humble en français ou c'est trop compliqué ?
Non, c'est pas compliqué du tout. C'est la Maison de l'Humble qui est accueillante. Vous y trouverez toujours un coin d'ombre, un petit pain chaud, et une petite carafe d'eau pour vous désaltérer. Voilà, c'est le peu avec le grand cœur.
Merci Amel Brahim Djelloul. Je vous laisse rejoindre Micha Fitzgerald Michel qui est à la guitare, Rachid Brahim Djelloul qui est au violon et Daman Kalfa à la derbouka. Je rappelle que votre album s'appelle Les chemins qui montent et au son aujourd'hui on avait Benoît Le Tyran et Mathias Taylor. Très beau, très très bel album, très très beau. Merci Amel et rendez-vous sur scène. Notre nouvel invité s'appelle Camélien. Il a été le bassiste du groupe Lojo jusqu'en 2016. Il a donc collaboré avec des musiciens importants comme Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt, Justin Adams. Phantom Future, c'est le nom de son album et c'est la nouvelle aventure qu'il partage, en tout cas sur un titre, avec le poète trinidadien Anthony Joseph. Camélien est dans la session live. Myriam Mélien sur RFI dans la session live.
Music du monde. La session live. Music du monde sur RFI.
Fantôme Futur, c'est le premier album solo de Camélien, qui est contrebassiste. Le titre qu'il vient d'interpréter en studio s'appelle « Ta confiance ». Cam, première question, quand on est derrière une contrebasse sur scène, on ne peut pas bouger comme Iggy Pop. Qu'est-ce que vous faites pour capter l'attention des gens en dehors de votre jeu musical ?
En fait, c'est une question que je me suis posée dès le début de cette aventure en solo. Et du coup, sur scène, avec un ami qui est scénographe, on a inventé toute une création à base de lumière, de trompe-l'œil, de perte de repères, de perte de pied et de contre-jour.
J'ai vu le clip des alarmes qui commence avec, je ne sais pas, un port, je ne sais pas si c'est Marseille, La Ciotat, etc. On voit des bateaux vus de dessus, certains ne sont pas en très très bon état.
Non, ouais.
Puis après ça finit, vous êtes effectivement devant des néons. J'hésitais entre Bowie, époque Thin White Duke et le film 9 semaines et demie pendant le striptease, je ne savais plus.
Ça fait partie de ces effets qu'on utilise pendant le concert. Je me suis dit très rapidement qu'effectivement, comme tu m'as dit, un contrebassiste est vraiment statique. C'est presque un piquet quoi, planté au milieu d'une scène. Et le public, qui en général est assis, a encore moins de liberté de mouvement.
Cela dit, un bon contrebassiste, c'est attirer l'œil et l'oreille du public. Je pense aussi à Renaud Garcia-Fons,
oui.
On ne s'embête pas hein, pendant ses concerts.
Exactement,
ses
oui, tout à fait.
Voilà, être statique n'est pas synonyme d'ennui. Cette idée de faire un album solo vous est venue quand vous étiez en 2019, je crois, à Morlaix pour le Festival des Possibles. Vous
oui.
accompagnez une lecture.
J'ai accompagné une poète qui s'appelle Lou Raoul, une rennaise. Ça a été plus un exercice imposé qu'une idée de ma part.
Vous voyez, finalement.
Oui, finalement, de temps en temps, ce genre de...
L'interventionnisme est du bon. Donc, ce sont les producteurs, enfin les gens qui s'occupent de
ce festival. Les organisateurs, oui. Ouais. C'est les éditions Isabelle Sauvage qui m'ont gentiment demandé, avec insistance, de proposer un solo. Alors, j'étais pas du tout motivé. Le temps arrivait, je me suis dit quand même, allez, tu as bien deux, trois morceaux, tu as bien deux, trois choses que tu peux jouer tout seul. Et puis, ça a été une révélation.
Voilà, ça a été un déclic. Fantôme futur, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Fantôme, point de suspension, futur.
Ouais. Oui. En fait, les fantômes futurs, pour moi, c'est toutes les choses qui n'arriveront pas parce qu'on a pris d'autres choix. Et c'est des choses qui peuvent t'accompagner, te hanter, peuvent te protéger. C'est ta vie, c'est ta destinée.
Alors le choix que vous avez fait, c'est de ne pas chanter.
Aussi, oui.
On vous l'a proposé quand vous étiez avec Lojo et Denis Péan ?
Avec Lojo, j'ai
passé 10 ans avec eux.
Oui, ouais, je chantais sur un morceau, Next Door to Paradise.
Alors, il se dit, c'est comme « on », c'est un pronom malhonnête, que tous les musiciens qui font d'un instrument doivent être capables de au moins siffler, susurrer le morceau qu'ils sont en train d'interpréter. Vrai ou faux ?
Faux.
D'accord.
Ça okay. peut aider.
Sur cet album, il y a un morceau que vous avez interprété avec maintenant votre meilleur ami,
ouais.
Anthony Joseph, originaire de Trinidad et Tobago, qui vit à Londres, qui a une carrière de poète, de slammer. Il est également professeur, ouais. Il écrit des livres. On y reviendra après. On va d'abord écouter ce morceau, enfin un extrait de La Couleur qui est sur votre album, donc en duo avec Anthony Joseph.
Elbows of the land, parakeets in green mountains, Aluta Makineli, in mountains where the river wide and mighty like the sea. We stand there, wooden bridge, horizon, she says, look at the trees. But those trees were simply yokes joined at the cusp of vertical V's. And amidst this beauty, she leaves and returns to the world below. I climb higher earthen steps to find my grandmother leaning over the lower Dutch door of her kitchen, opening her heart on that mint green morning to tell me to be careful as I walk along the mudside, coming up where it black. And slippery.
En 2006, Anthony Joseph avait sorti un livre qui s'appelait The African Origins of UFOs, l'origine africaine des objets volants non identifiés. Ça fait partie de cette culture américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, où l'on met sous la chape d'afro-futurisme. où les Noirs, ne se sentant pas admis, respectés sur leur propre terre, puisque les États-Unis sont devenus leur terre de, par force, se mettent sur une autre planète, où là, ils seront vraiment chez eux. Musicalement, ça s'est traduit dans la musique de Sun Ra, et même de Funkadelic Parliament avec George Clinton. Okay. Qu'est-ce qui vous lie à Anthony Joseph? C'est la maison de disques qui vous a réunis? Vous aviez déjà des points communs?
Alors,
des rencontres?
J'ai déjà vu plusieurs fois en concert Anthony, j'ai vraiment apprécié sa musique, ses albums. Et surtout, quand je suis arrivé au sein de la maison Heavenly Sweetness, le boss, Franck Descolonges, m'a dit « Tu sais, dans cette maison, on demande souvent aux plus affirmés, aux plus acides, donner un petit coup de main aux petits nouveaux. Alors si tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, n'hésite pas à me le proposer. » Et tout de suite, j'ai pensé à Anthony Joseph.
Parce que vous, vous ne slammerez jamais. Vous préférez sa voix à la vôtre.
Bah, déjà, j'adore sa voix. J'adore son écriture aussi. Je ne saisis pas tout, mais je trouve qu'il y a... Il y a plein de sens, de tiroirs, il y a plein de lectures possibles. Je trouve ça vraiment magnifique.
Est-ce qu'on peut parler de puissance narrative, ce qui concerne votre contrebasse? Est-ce que vous trouvez que c'est un instrument qui n'est pas assez utilisé ou pas assez mis en avant?
Alors, c'est un instrument qui est vraiment parfait pour l'accompagnement, qui est idéal pour les graves, pour déployer les accords. C'est aussi un instrument que je trouve qui a une puissance narrative qui apaise... Je peux arriver avec ma contrebasse, il y a des enfants qui jouent, je commence à jouer, hop, ils vont se concentrer, ils vont écouter, il y a quelque chose d'universel aussi dans ce timbre-là.
Vous voulez dire que vous mettez un peu d'ambiance dans les trains à la SNCF? Parce que je sais que les joueurs de contrebasse ont quelques soucis avec les TGV.
C'est très difficile, j'ai même dû quelquefois ne pas monter dans les TGV.
Oui, l'accès a parfois été interdit absolument.
Ça m'est arrivé déjà deux fois. D'autres fois, les contrôleurs étaient plus sympathiques, alors je leur laissais un CD, écoutez ça monsieur, défendez notre cause.
Je vous propose d'écouter un autre extrait de ce premier album camélien, Fantôme Futur. Et vous avez choisi, vous, le titre Gnawan. Cet extrait du premier album solo de Camélien qui s'appelle Fantôme Futur. Alors, Gnawan, très bêtement, moi je suis partie sur le son, je me dis, ah tiens, Gnawan, Gnawa, etc. Puis finalement, non, pas du tout. Vous avez pensé à un titre d'un groupe de rock anglais qui a fait parler de lui dans les années 80, qui s'appelle Bauhaus, avec Peter Murphy. Et le titre Bella Lugosi is Dead, c'est un morceau qu'on retrouvait dans le film
The Hunger,
Les Prédateurs, avec Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon, l'histoire de vampires avec des morts, tout ça, l'étoile d'araignée, très bien. Et il y avait cette séquence où quelqu'un se faisait sucer le sang
dans une boîte de nuit.
Oui, voilà, oui. Absolument. Alors, je ne savais pas que vous aviez ce goût-là pour ce rock d'il y a 40 ans,
un peu crypto. J'étais fan de Bauhaus, vraiment.
Il est toujours en activité.
Et
alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce morceau et pourquoi vous l'avez
proposé? Alors, c'était la pulsation qui me plaisait beaucoup. Et puis, je l'ai essayé de la faire sur ma contrebasse, un système de percussion sur la contrebasse. Et c'est avéré que ça fait un rapport de vitesse de 3 temps pour 2 temps. Et en pensant à ça, j'ai pensé au Gnawa aussi. Mais comme je trouvais que c'était un peu assez européen, je me suis dit c'est un peu blanc, donc il faut que je fasse une association. Je vais mettre du Gwen dedans, le Gwen breton, donc on va faire Gnawan. Et pour finir, je me suis rendu compte que c'est une ville qui existe au Maroc. Donc ça fait un petit tour.
Vous êtes quoi, français?
Oui, bien sûr, je suis né à Angers, mon papa était de la Martinique et ma mère originaire d'Espagne.
Vous êtes un homme du monde, cher ami.
On essaye.
On va terminer cette émission avec un titre qui s'appelle Car, Car, Car. Je vous laisse le présenter et aussi essayer de nous dire ce que votre imaginaire a mis dans ce morceau. Parce que je sais que vous parlez, il y a un langage, il y a une histoire dans les morceaux et chacun y met ce qu'il a envie. On transpose, on projette. Mais vous, dans Car, 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 parce que moi j'ai pensé à Boubacar Traoré, mais c'est toujours une histoire de son, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites.
Alors, ce morceau-là, il est plutôt en rapport avec mes enfants.
Vous avez donc des enfants, oui. Information. Oui, combien ?
J'en ai deux. Bonjour à Carmen, bonjour à Marcus.
Marcus et Carmen, voilà.
Et voilà, ça et donc c'est un morceau pour eux. Leur joie de vivre, leur manière de sautiller, d'essayer de jouer à la corde à sauter, de se prendre des gamelles, des cauchemars.
Donc ils sont petits ?
Ils sont assez petits, ouais.
Ouais. Comment ils appellent votre contrebasse ? Ils ont donné un petit nom ?
La contrebasse.
Vous savez comment s'appelle la contrebasse dans certaines contrées ?
Oh, ça peut être la guitare à King Kong, ça peut être la maman cochon.
Maman cochon aux Antilles. Mes mères aussi, mais ça voudrait dire que la personne qui en joue, c'est Pépère. Donc c'est... non, on oublie. Qui vous a donné envie de faire de la contrebasse ? Je ne sais pas, moi, c'est en écoutant Stella by Starlight de Ron Carter ou Body and Soul de Charlie Mingus. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
J'ai toujours écouté du jazz. Ce qui m'a plu le plus, c'était un séjour à Grenoble chez les amis les Barbarins Fourchus. Il y avait le contrebassiste qui était absent et qui avait laissé la contrebasse dans le théâtre. Et du coup, pendant une semaine, j'ai pu tenter d'apprivoiser cet instrument. Et ce qui m'a plu, c'est cette résonance, faire corps avec l'instrument, vibrer avec, puis après vibrer pour l'instrument. C'est un rapport assez charnel, assez ondulatoire, vibratoire.
Non,
mais
c'est
on
ondule
aussi quand on joue de la contrebasse. Ouais.
Oui, monsieur. Ça fait longtemps que vous en jouez de la contrebasse maintenant ?
Une petite vingtaine d'années.
Est-ce qu'il existe des contrebasses pour les enfants comme pour les violons ?
Oui, on appelle ça des quarts, des huitièmes. Des...
Comme pour les violons.
Comme pour les violons, exactement.
Vous avez une contrebasse de grande personne.
Exactement.
Oh, ouais. Je suis très, très, très fière de vous.
Je vous remercie.
Pour Carmen et Marcus, car, ce sera le dernier morceau qu'interprète Cam Mélien aujourd'hui dans la session live. Merci Cam, et à bientôt.
Merci beaucoup, merci pour
nous amitiés Anthony Joseph.
Merci.
Votre ami.
Oui.
Depuis combien de temps maintenant ?
Une petite année.
Oh, très vieil ami. Allez-y, je vous en prie.
Merci.
Mes liens sur RFI dans la session live au son Benoît Le Tyran et Fabien Mignoret. Merci.
Music du Monde sur RFI.